mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour aux auditeurs. Bonjour Catherine.
Que nous proposes-tu aujourd'hui pour approfondir la connaissance de la pensée de René Girard ?
Nous pourrions nous intéresser à Shakespeare.
Quel est le rapport entre Shakespeare et Girard ?
C'est simple. René Girard pensait que Shakespeare avait déjà tout compris des principes de l'anthropologie mimétique.
C'est-à-dire le mimétisme des désirs, le sacré et la culture issue du bouc émissaire et la révélation chrétienne ?
Tu résumes parfaitement cette anthropologie. Dans les années 70, Girard assiste à une représentation du Songe d'une nuit d'été, la plus célèbre comédie de Shakespeare. Soudain, il ressent un choc. Mais tous les désirs sont mimétiques dans cette pièce. En relisant d'autres pièces du poète anglais, il s'aperçoit que la crise mimétique est parfaitement décrite dans Troïlus et Cressida, que le bouc émissaire est souvent présent, par exemple dans le conte d'hiver, et que la naissance d'une civilisation, en l'occurrence l'Empire romain, à partir d'un meurtre fondateur, est tout simplement le sujet de la tragédie Jules César. Girard en arrive à penser que sa conception de l'homme avait déjà été comprise par Shakespeare, que ses pièces la reflètent, d'où la réputation de Shakespeare de dépeindre parfaitement la nature humaine, et même que ses pièces révèlent cette conception, ou du moins à ceux qui ont l'ouïe fine.
Louis Fine ? Que veux-tu dire ?
Prenons Hamlet. Un fantôme lui révèle que son père, le roi du Danemark, a été assassiné et qu'il doit le venger. La vengeance est un comportement mimétique. On inflige à l'autre le dommage que l'on a subi. Or, Hamlet hésite à se venger. Shakespeare fait d'une pierre deux coups. Ses hésitations lui permettent d'entretenir le suspense pendant cinq actes, mais aussi de dénoncer le mécanisme de la vengeance. On peut être content de voir la vengeance exécutée. Mais ceux qui ont l'ouïe fine comprennent que l'affaire n'était pas si bonne, car Hamlet meurt et son royaume est envahi.
D'accord. Mais s'il faut connaître l'œuvre de Shakespeare pour comprendre celle de Girard, cela devient compliqué.
C'est pourquoi je te propose de nous concentrer sur deux pièces uniquement et d'aborder ces pièces de façon aisée, c'est-à-dire par le cinéma. Le Songe d'une nuit d'été a fait l'objet de nombreuses adaptations au cinéma. Je te recommande la version réalisée par Michael Hoffman en 1999 avec Michel Pfeiffer, Kevin Kline et Sophie Marceau.
Nous redonnerons les références pour les auditeurs en fin d'émission.
Cette pièce est une comédie féerique qui emboîte plusieurs intrigues avec une virtuosité confondante. Le duc d'Athènes se marie et une troupe de comédiens amateurs lui propose un spectacle. Au même moment, le roi des elfes, Oberon, se dispute avec sa reine, Titania, à propos d'un serviteur dont chacun se veut le maître. Pour se venger, Oberon décide de rendre Titania amoureuse d'un des acteurs amateurs métamorphosé en âne. C'est le lutin Puck qui est chargé de la mission, mais il introduit aussi la confusion entre deux couples de jeunes gens. Après une nuit d'égarement, le duc et sa fiancée assistent au spectacle des comédiens amateurs et s'interrogent sur le désir amoureux.
Et qu'y a-t-il de mimétique dans tout cela ?
Presque tout. Oberon et Titania s'affrontent sous un prétexte futile, récupérer un serviteur. C'est de la rivalité mimétique. Les artisans qui se veulent des acteurs sont ainsi doublement le symbole du mimétisme. Ils imitent des gens qui imitent. Lors de la distribution des rôles, Bottom, celui qui sera transformé en âne, veut tour à tour jouer tous les personnages. Il est prêt à s'incarner dans n'importe lequel. C'est là pour Girard le signe tangible de ce qu'il appelle le désir métaphysique. On ne sait pas quoi être et on prend n'importe qui pour modèle, tout en étant prêt à en changer instantanément. Les deux couples de jeunes gens se défont et se refont dans un chassé-croisé où qui délaisse devient qui est le plus désirable. À la fin, plus personne ne sait qui il désire et le film traduit visuellement cette indifférenciation. Tous sont tombés dans la boue et les distinguer est impossible. De tels chassés-croisés se retrouvent par exemple dans la pièce de Marivaux, La double inconstance, ou dans l'opéra de Mozart, Così fan tutte. La scène finale propose même un débat sur les mésaventures des deux jeunes couples. Invité au mariage du duc, il raconte ses mésaventures. Le duc affirme qu'il ne s'agit là que d'un songe, mais la toute récente duchesse répond « Le récit qu'ils nous ont fait est d'une grande cohérence, sans cesser d'être étrange et merveilleux. » Cette cohérence, c'est pour Girard le fait que le désir ne soit pas intrinsèque, mais inspiré par des modèles, c'est-à-dire mimétique.
De quelle autre pièce de Shakespeare vas-tu nous parler ?
De la tragédie Jules César. Là encore, nous pouvons y avoir accès grâce au cinéma. Joseph Mankiewicz en a réalisé une superbe adaptation en 1953 avec James Mason et Marlon Brando. Cette pièce est presque un récital de l'anthropologie de René Girard. Le moteur de l'action est la jalousie qu'éprouve Cassius à l'égard de César. Ils étaient deux jeunes officiers, semblables et amis. César est devenu dictateur, on lui propose la couronne impériale, tandis que Cassius est resté dans l'anonymat. Dans une scène saisissante, Cassius explique sa jalousie à Brutus. Les propos de Cassius sont une expression à l'état pur de la rivalité mimétique qu'il attache à César et à quel point il voudrait être César. À défaut, il va le faire assassiner. Rarement le désir mimétique de s'emparer de la personnalité de son modèle n'aura été formulé de façon aussi claire et aussi directe. Ensuite, Cassius recrute des sénateurs, qui, conduits par Brutus, vont assassiner César. Mimétisme encore, car pour eux, Brutus est un modèle. C'est un républicain vertueux et désintéressé, qui refuse que César ne mette fin à la République en devenant empereur. Shakespeare met également en scène la crise mimétique qui sévit à Rome, l'opposition entre partisans et adversaires de César. Des comètes, une tempête et des phénomènes surnaturels ajoutent au trouble. Vient alors le meurtre de César en plein Capitole. Brutus demande à ses complices de tremper leurs mains dans le sang de César et dit « Soyons des sacrificateurs et non des bouchers ». Il s'agissait donc bien d'une immolation. Pour Girard, Shakespeare en était parfaitement conscient et le souligne volontairement. La fin de la pièce montre la victoire d'Octave Auguste, qui devient ainsi empereur. C'est la sacralisation de la victime émissaire, puisque dès lors, tous les empereurs romains seront dénommés César. Nous venons ainsi d'assister à la fondation d'un empire, et c'est sur un meurtre que cette fondation s'opère. Dans une scène fameuse, Shakespeare montre également le mimétisme versatile de la foule. Après l'assassinat de César, Brutus vient haranguer le peuple et le convainc d'entériner le coup d'État. Puis vient Marc-Antoine, le bras droit de César. Il retourne complètement les Romains par un discours célèbre que Marlon Brando interprète magnifiquement dans le film. Nous connaissons en substance le discours réellement prononcé par Marc-Antoine. Dans sa version, Shakespeare a intensifié le caractère mimétique. Marc-Antoine s'identifie aux gens du peuple et les incite à s'identifier à lui.
Tu nous donnes envie de voir ce film. Et pour le troisième élément de la théorie mimétique, à savoir que les boucs émissaires sont des innocents, ainsi que l'a révélé le christianisme, retrouvons-nous cet élément dans des pièces de Shakespeare ?
Nous le retrouvons de façon indirecte. Jusqu'à Coriolan, créé en 1607, toutes les tragédies de Shakespeare aboutissent à un dénouement sacrificiel. Mais ensuite, Shakespeare y renonce. Ses pièces s'achèvent désormais avec des réconciliations et des pardons. C'est un désaveu implicite du mécanisme sacrificiel. Et le pardon est conforme au message évangélique.
Rien de plus précis ?
Non, il est difficile d'en dire plus.
Peux-tu nous redonner les références des films que tu viens de citer ?
Nous avons donc « Le songe d'une nuit d'été » de Michael Hoffman, avec Michel Pfeiffer, Kevin Kline et Sophie Marceau. Tout est magnifique dans ce film. Pour Jules César, il s'agit du film de Joseph Mankiewicz, avec James Mason et Marlon Brando. Il est en noir et blanc, mais n'a pas pris une ride.
As-tu d'autres adaptations à nous recommander ?
J'ai parlé d'Hamlet. Il en existe deux très belles adaptations, celle de Franco Zeffirelli avec Mel Gibson et Glenn Close, datant de 1990, et celle de Kenneth Branagh, datant de 1996. Et je ne résiste pas à mentionner « Beaucoup de bruit pour rien » de et avec Kenneth Branagh, un film de 1993 littéralement euphorisant.
Et Gérardien ?
Bien sûr, mais le mieux est de le regarder.
Merci beaucoup Jean-Louis, et au revoir.
Au revoir Catherine, et merci aux auditeurs de nous suivre.